Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Alors à ceux qui nous rejoignent, je l'apprendrai à ceux qui nous sont fidèles depuis une bonne cinquantaine de numéros. Non, je plaisante, je le rappellerai, 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent dans les grandes salles, qui bougent encore dans les grandes salles, uniquement les grandes salles obscures. Ce jour, ouais, je l'ai bien dit, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons aborder quelques aspects de la carrière d'un musicien anglais fort connu pour des compositions que nous n'écouterons pas ce jour. 24 notes secondes, c'est aussi l'art de la frustration, mais c'est de la frustration que naît le plaisir, encore que je m'éloigne du sujet. Nous consacrons donc cette émission de 24 notes secondes à John Barry, un compositeur plus largement connu pour avoir été celui des James Bond avec Sean Connery pour le faire trafic, donc des seuls James Bond. Je pense que tous les aficionados du genre en seront d'accord, même si, et nous l'évoquerons dans une prochaine émission, ce n'est pas lui qui est à l'origine du fameux thème, allez, quelques notes, oui d'accord, on n'en fait pas plus, ce n'est pas lui qui est à l'origine du fameux thème, mais un illustre inconnu nommé Monty Norman. Maintenant vous saurez de qui il s'agit. Ce n'est donc pas cet aspect de la carrière de John Barry que nous allons évoquer, mais quelques compositions glanées au fil des années 80 qui m'ont quasiment vu naître, au fil des années 80 et 90, même si depuis déjà un certain nombre, un trop grand nombre d'années, eh bien, nous n'écoutons plus John Barry et son style absolument inimitable, quoique, et on le lui reprocha souvent et mieux, aisément reconnaissable, on n'écoute plus John Barry dans les salles de cinéma. Alors, pourquoi ne pas l'écouter dans 24 notes secondes, me direz-vous? Eh bien, j'allais justement vous le proposer. Nous allons écouter un premier extrait d'une bande originale, je vous en dirai quelques mots, du film en question après. Ça s'appelait en anglais The Black Hole, donc en français, bien le trou noir. C'est un film de 1980 qui réunissait dans les rôles principaux Maximilien Schell, Anthony Perkins, Yvette Mimieux, Ernest Borgnine et quelques autres, avec beaucoup d'effets spéciaux. Nous étions dans le sillage, en tout cas par l'esprit de la guerre des étoiles. Tout ça était de la science-fiction pur jus et c'est John Barry qui s'y collait avec une partition relativement magistrale, en tout cas dans son ton. Je vous en laisse goûter, vous êtes bien dans 24 notes secondes.
Thank you.
voilà, ça décoiffe un petit peu. Un extrait de la bande originale du Trou Noir, The Black Hole. Alors, c'est marqué Walt Disney Productions comme réalisateur, mais non, pas tout à fait. C'était le tâcheron, il faut bien le reconnaître, Gary Nelson, qui s'y collait. Quelque part en 1980, l'année n'est certes pas indifférente. Nous étions quelques années, mais oui, mes braves amis. Après le premier, en fait le troisième, je n'y comprends plus rien, épisode de Star Wars, alias La Guerre des Étoiles, une musique de John Williams, restée fameuse, et bien évidemment, on s'engouffrait dans la brèche de ce succès mondial avec des films de science-fiction où l'on retrouvait des petits robots amusants, où l'on retrouvait des grands vaisseaux spatiaux, des méchants, des gentils, des effets spéciaux en veux-tu, en voilà, avec, à l'époque, nous étions en 1980, chers amis, quelques effets, sinon sur ordinateur, du moins avec l'aide d'ordinateur, et il y avait surtout des décors peints sur verre. Alors moi j'adore ça, mais je ne suis pas sûr que maintenant ça passe encore. Le tout, vous l'avez deviné, n'était peut-être pas le plus grand film de science-fiction de tous les temps. Allez, ce n'était pas le plus grand film de science-fiction de tous les temps. Yvette Mimieux y était, j'adore Yvette Mimieux, un peu décalé, mais que dire alors de Maximilien Schell et d'Anthony Perkins, plus connu pour son rôle dans Psychose d'Alfred Hitchcock, et Maximilien Schell, donc acteur racé, né à Vienne en Autriche quelque part en 1930, et qui, dans les années 50, eh bien, se fit une carrière internationale en interprétant essentiellement des rôles de nazis plus ou moins anciens. On le vit notamment, pas forcément dans des rôles de nazis, en 1957 dans Le Bal des Maudits d'Edouard Mitrick. On le vit dans l'adaptation sartrienne des Séquestrés d'Altona en 1962. On le vit dans le délicieux Top Capi de Jules Dassin en 1964, aux côtés de Peter Ustinov et de Mélina Mercouri. Bref, on le vit dans grand nombre de super productions de tout genre et de toute qualité dans les années 80. Et il était donc de ce trou noir, tout comme John Barry. Allez, je l'ose quand même, le titre était quelque peu bien inspiré pour décrire le film. Nous allons donc passer rapidement à autre chose. Assez de descente dans flamme dans 24 notes secondes, vous entends-je dire de l'autre côté de votre poste de radio. Et nous allons écouter un autre extrait, bien évidemment, d'une bande originale de John Barry. Ça s'appelle « Quelque part dans le temps ». C'était tourné quelque part, là encore, dans les années 80. On retrouvait dans le rôle principal Christopher Reeves. Remember Christopher Reeves, qui fut un Superman, ma foi, plutôt bienvenu. On y retrouvait aussi Christopher Plummer et la délicieuse Jane Seymour. Je vous en redirai quelques mots après. Nous allons, en attendant, écouter un extrait de cette bande originale. Attention, c'est du romantique pur et dur dans 24 notes secondes. du John Barry, pur sucre, du John Barry, pur jus, un extrait de la bande originale de Somewhere in Time, quelque part dans le temps, un film de Janusz Fark tourné en 1980, je l'ai retrouvé depuis. Alors là, vous avez la quintessence du style de John Barry, d'aucuns diraient que vous avez tout le style de John Barry dans cet extrait fort romantique. Il y a des cordes, en veux-tu, en voilà, pour une partition qui en l'espèce collait bien au film, qui racontait une histoire vaguement fantastique d'un homme à la recherche dans le temps, s'il vous plaît, à la recherche de quoi ? D'une femme, bien sûr. De quoi voulez-vous qu'il s'agisse sinon de cela ? L'homme en question, je l'ai dit avant d'écouter un extrait de cette bande originale, c'était Christopher Reeve, qui restera à jamais comme un Superman plutôt crédible, rôle qu'il interpréta à 4 reprises. Dans le premier opus, sous la direction de Richard Donner, dans les 2 suivants, sous celle de Richard Lester, et dans le 4e, mais non, sous celle de Sidney G. Fury. Un rôle effectivement un peu écrasant qui ne permit guère à l'acteur de progresser dans d'autres domaines, même si quelque part dans le temps en témoigne, il avait de larges capacités, d'autant plus que le 27 mai 1995, Christopher Reeve passa du cinéma aux faits divers, puisque victime d'une chute de cheval, il devint paraplégique, ce qui malgré tout ne freina ni sa volonté de paraître sur les écrans, ni même son activité cinématographique tout court, puisqu'il resta producteur jusqu'à ce que le 10 octobre 2004, si vous voulez le savoir, il nous quitte à la suite d'un arrêt cardiaque. Voilà le genre d'histoire comme les tabloïds d'Hollywood et les autres les aiment. D'abord tout en haut et puis ensuite sinon tout en bas. C'est ce que je me garderai bien de dire. En tout cas, versant dans la tragédie en triomphant avant que la tragédie ne finisse par triompher de lui. Tel était Christopher Reeve, un fort bel acteur, ma foi, un bel homme, je l'imagine aussi dans la vie, qui restera donc essentiellement comme un très très bon Superman, mais aussi dans quelques autres films que je ne peux citer dans le cours de cette émission qui se poursuit avec un autre bel homme, puisque nous allons écouter sans plus attendre l'extrait de la bande originale d'un film. Alors tout à l'heure, à propos du trou noir, je vous ai indiqué que nous étions dans les réminiscences de la guerre des étoiles à propos des aventuriers du bout du monde, puisque c'est le film duquel il s'agit, Highway to China. Nous étions en l'espèce, dans le sillage, vous l'avez déjà deviné, des aventuriers de l'Arche perdue, auquel le film, donc Highway to China, empruntait sa figure de base, c'est-à-dire un couple. Qui d'autre ? Improbable, Tom Selleck est une actrice dont le nom m'échappe, je dois vous le dire sur l'instant, mais en tout cas qui n'est pas restée dans les mémoires, qui se rencontre, qui se déteste, qui vivent moult aventures dans des pays fort exotiques, avec si possible quelques paysages enneigés, quelques avions, le tout dans les années 30 ou 40. Ce n'était pas les aventuriers de l'Arche perdue, ce n'était pas non plus John Williams que nous croisons à nouveau. C'était plus modestement, ma foi, le résultat n'était ni déshonorant, ni vraisemblablement goûteux. Les aventuriers du bout du monde, la bande originale, vous l'aviez deviné, était signée de John Barry. Et nous allons en écouter un très très large extrait, Highway to China, dans 24 notes secondes. Ça pourrait durer comme cela pendant des heures, ou presque. Un extrait de la bande originale des Aventuriers du bout du monde. J'ai failli commettre un lapsus. Un film tourné en 1983 avec Tom Selleck, alias Magnum. Mais vous le savez, dans le rôle principal, une musique de John Barry. Là encore, la quintessence du style de John Barry. Oserais-je le barbarisme barriesque? Non, je n'ose pas, mais c'est tant pis, c'est trop tard. Donc, un extrait d'une bande originale qui nous permet de poursuivre cette émission de 24 notre seconde sur Divergence FM consacrée, qu'il était bientôt, à John Barry. Et nous allons conclure cette émission, et bien certainement par l'un des sommets de la carrière du dit John Barry, pardonnez-moi. Cela lui permit d'obtenir l'Oscar, et cette année-là, il ne fut pas le seul, puisque ce film auquel personne ne croyait obtint les meilleurs Oscars, je vais y arriver, des meilleurs films, réalisateurs, adaptation, montage, photographie, son, et donc, je vous l'ai déjà dit, musique. Le tout durait, allez, quelque chose entre 2h30 et 3h. Le tout était parlé uniquement ou presque en Sioux. On voyait plus de bisons que de gens et pourtant cela fut un triomphe absolument international qui assura à son interprète principal, alias réalisateur, là encore une carrière durable. Vous l'avez sans doute reconnu, même si je ne l'ai point encore nommé, Dances with Wolves, Danse avec les loups, un film de 1990 avec dans le rôle principal Kevin Costner, réalisé par Kevin Costner, un scénario, il faut lui rendre justice, de William Blake, pour une histoire tout à fait saisissante, où on voyait donc le dit Kevin Costner, soldat en perdition, se ressourcer auprès d'une tribu Sioux, en l'espèce les Lakota, quelque part dans le Dakota du Sud, j'y suis allé, effectivement, c'est absolument magnifique. Il y avait des bisons, il y avait de grands sentiments, oserais-je dire, qu'Avatar m'a paru être un remake caché de Danse avec les loups, tant on y retrouve de traits communs entre les deux histoires, oserais-je dire que je préfère largement Danse avec les loups à Avatar. En tout cas, John Barry eut la chance de composer cette musique-là. Il put là encore laisser éclater tout son talent musical, fait tout à la fois de retenue et de lyrisme, vous l'avez bien compris, senti, entendu. Le tout faisait merveille, le tout reste encore une bande originale de référence, et du coup, on va en écouter un très très large extrait dans cette dernière part de 24 notes secondes. Je récapitule donc pour les plus oublieux. Ça s'appelait Danse avec les loups. Kevin Costner y faisait à peu près tout sauf la musique, qui était signée de John Barry. Voilà, 24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you and bye bye.